RCF.
Chaque mois sur RCF, trois journalistes et Charles Leclerc vous donnent rendez-vous pour un débat, quatre critiques cinéma, sans coup. Voici les 400 coups.
Nous voici au mois d'avril, nous sommes en plein bif et j'ai le plaisir de recevoir des fans de cinéma de genre et du bif. Je commence par Samuel Tubé. Samuel, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Alors, vous travaillez à TéléMB.
Oui, tout à fait.
Et cinémafantastique.net.
.net, tout à fait. Un webzine dédié au cinéma de genre, donc ça tombe bien.
Ça tombe très bien.
En ce mois d'avril.
Alain Depré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, mais ce n'est pas comme réalisateur que nous vous recevons aujourd'hui. C'est parce que vous êtes critique cinéma pour Mad Movie.
Tout à fait, Mad Movies, oui.
Et cinémafantastique.net aussi.
Tout à fait, comme votre autre invité, Samuel Tubé.
Et enfin, Eric Van Kutsem, vous êtes... Bonjour Eric.
Bonjour Charles.
Vous êtes, vous, le responsable rédacteur en chef du site synopsis.be.
C'est exactement ça.
Et on vous remercie d'être venu parce que normalement, vous n'étiez pas prévu. Vous voulez squatter le studio parce que normalement, c'était Grégory Cavinato qui devait être des nôtres, mais il a perdu quelqu'un de sa famille et vous avez accepté de le remplacer au pied levé.
C'est le cas de le dire.
Nous allons nous consacrer au cinéma de genre. Nous allons aborder deux films aujourd'hui et ensuite, nous aurons un échange à bâton rompu à propos du bif. Le premier film dont vous allez nous parler, Eric, et nous échangerons après avec les autres confrères, c'est un film qui est un remake d'un manga japonais ou d'un film d'anime de 1995 ?
Oui, tout à fait. Donc, il s'agit de Ghost in the Shell, qui est bien connu parmi les amateurs de manga, qui est à la base un manga de Masamune Shirō. Et qui a été évidemment maintes fois adapté au niveau animé, on va dire japonais, notamment dans une version assez connue effectivement dans les années 90. Ici, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un film donc en live avec des personnages réels donc et non plus une adaptation en animé. Alors, il faut dire une première chose importante, c'est que ce film a malheureusement été fort conspué par les grands amateurs de Ghost in the Shell, en tout cas les amateurs du manga, qui ont d'abord fait une première critique. La première critique, c'est que l'actrice principale qui interprète le rôle est Scarlett Johansson, donc déjà non pas une japonaise, mais une américaine. Il y a eu donc ce qu'on appelle un phénomène de white bashing sur le net qui a pris des proportions un peu délirantes et pas vraiment justifiées, on va dire, mais voilà. Et puis ensuite, évidemment, beaucoup d'autres personnes se sont emparées en disant que le film ne correspondait pas au manga et n'était pas dans la même veine que le manga. Alors, ceci étant dit, il faut nuancer effectivement le propos et il faut quand même dire une chose, c'est que c'est un film que moi j'ai choisi parce que j'apprécie assez fort la réalisation et ce qui en a été fait. Au-delà de l'animé et au-delà du manga que j'avais également lu, il est clair que c'est un film qui a d'autres prétentions que les prétentions qui étaient à la base du manga. C'est-à-dire notamment, il a choisi une simplification assez importante du sujet, de manière à toucher un public un peu plus large. Il a choisi Scarlett Johansson pour effectivement aussi toucher un public un peu plus large. Hein. Il est clair que c'est la plastique de Scarlett Johansson qui est largement mise en avant.
Et fascinante.
Voilà, tout à fait. Elle est aussi envoûtante qu'elle l'était dans Lucie ou dans d'autres films où on mettait en valeur ses talents. En tout cas, sa plastique, on va dire plutôt. Mais... Il faut nuancer ça. Donc, c'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas un reboot ou un remake du manga, clairement. Mais il faut saluer cette volonté de simplifier et d'ouvrir le sujet au plus grand nombre. Et je dois dire que globalement, le film fonctionne très très bien si on accepte donc de s'écarter effectivement du manga original.
Vous en pensez quoi, Samuel ?
Alors, je suis un peu plus mitigé parce que je suis un grand amateur du manga original. En tout cas, de l'adaptation de Mamoru Oshii, le manga original, je le connais assez peu, à vrai dire. Et oui, on est véritablement dans une simplification, même une vulgarisation, j'ai envie de dire, parce que au-delà, le film reste tout à fait bien ficelé, il est rythmé. Scarlett Johansson est très bien dans le rôle, en plus. Hein, elle ne mérite pas du tout ce white bashing qu'il y a eu. Mais voilà.
Elle entre dans la peau du personnage.
Oui, totalement, littéralement. Voilà, Ghost in the Shell, c'est une œuvre à la fois spirituelle et charnelle. C'est le manga, enfin, en tout cas l'animé de Mamoru Oshii, mélangeait ces deux aspects-là. Il y avait des séquences très, très contemplatives, le film était très philosophique. Et ici, ben, tout ça est ramené à quelque chose, à un film d'action, en fait, un peu lambda, mainstream. Et, voilà, pour ceux qui connaissent le manga original, l'animé en tout cas de Mamoru Oshii, c'est un film qui n'est pas très utile en fait. Hein, mais effectivement, ça pourrait peut-être ouvrir et attiser la curiosité de ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, voilà, on est quand même face à un gros produit américain mainstream et une formule vulgarisée effectivement qui oublie vraiment la dimension philosophique qui faisait tout le sel pour moi de Ghost in the Shell et de l'anime original, donc très déçu quand même, mais ça reste un film tout à fait honorable et surtout visuellement resplendissant. J'ai eu la chance de pouvoir l'admirer en IMAX et il y a des effets visuels, notamment de Weta, à qui l'on doit les effets du Seigneur des Anneaux, de grands films, King Kong aussi, c'est une boîte australienne qui a suivi, néo-zélandaise pardon, qui a suivi les travaux de Peter Jackson. Et donc visuellement c'est vraiment de très très haute facture. Mais sur le fond, ça bloque un peu pour ma part.
Alan, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que c'est une adaptation qui est surtout dirigée vers les nouvelles générations et peut-être les néophytes qui ne connaissent pas le manga de Masamune Shirō ou les adaptations qu'a pu en faire Mamoru Oshii. Et par rapport à l'américanisation des personnages et à tout ce phénomène de white bashing sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu un faux débat. Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans une société globalisée et on est donc forcément dans un cinéma aussi globalisé. Donc je pense qu'une œuvre, elle plaît ou elle ne plaît pas, tout simplement. Il ne faut pas s'amuser à inventer des faux débats pour le plaisir.
Oui, parce qu'on pensait qu'on attendait le film au tournant. Moi, je l'ai vu aussi en IMAX et j'étais bluffé par le son et les images, tout en connaissant l'anime. Il y a un acteur qui ne parle pas anglais dans le film ? Ou je me trompe, ou je confonds avec un autre film ?
Oui, il y a Takeshi Kitano dans le film.
Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Oui, il y a un acteur japonais, oui. 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 Qui n'est pas habitué à ce genre de rôle-là. Vraiment, encore que son rôle dans le film pourrait être repris sur certains de ses autres rôles qu'il a fait. C'est un réalisateur et un acteur japonais extrêmement connu et qui effectivement fait pas mal de films cultes, on va dire. Oui. C'est clairement le cas. Mais pour en revenir au film, moi, je suis effectivement un fan plutôt des mangas, parce que c'est ce que j'ai lu. Et je trouve la complexité qu'il y a, et la complexité philosophique qui est présente également dans le manga, comme dans l'animé d'ailleurs plus tard, je trouve que parfois elle était désarçonnante, même pour quelqu'un qui aime ça. Et c'est vrai que moi j'adore vraiment le manga, je suis un fan de BD, donc c'est principalement ça que je vois. Mais je dirais que parfois c'était vraiment tellement complexe, la volonté d'aller vraiment dans des profondeurs philosophiques et aussi parfois techniques, même clairement, parce que ça met en scène pas mal de côté de la science-fiction pure et dure, qui ne sont pas toujours forcément simples à suivre pour les néophytes. Mais je trouve que c'est vrai qu'ici, on peut critiquer, ils sont gommés, ils sont transcrits, comme disait très bien Samuel, dans quelque chose qui est plutôt de la vulgarisation. Mais en même temps, voilà, j'ai accroché parce que je trouvais que les images étaient somptueuses, je trouvais que la bande-son était somptueuse, Scarlett est très bien, Takeshi Kitano fait quelque chose effectivement d'une prestation, comme d'habitude, un peu déjantée. Donc tout ça est bien, et finalement, j'ai essayé d'oublier ce que je connaissais du manga pour profiter du film pleinement. Et je suis ressorti assez soufflé en me disant, bah oui, c'est bien. C'est clair que si maintenant je reprends et je pars en arrière et je dis, oh, est-ce que c'est vraiment une comparaison avec le manga original ? Bon, là, je suis d'accord, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà.
Oui, il vous reste toujours l'expérience du film.
Ce que je regrette un petit peu aussi dans cette version, c'est qu'il n'y a pas véritablement de réactualisation en fait, du propos. C'est un petit peu dommage. Ils ne se sont pas trop cassés la tête. En fait, hein. C'est une simplification. Et ils auraient pu réactualiser, ils auraient pu vraiment enrichir la thématique de Ghost in the Shell, qui est donc l'esprit dans la machine. Et ce n'est pas du tout le cas ici. Donc c'est un petit peu un produit un peu fainéant quand même, je trouve.
C'est vrai, ils ont été droits au but, on va dire, comme font les Américains d'habitude, hein, effectivement, de ce côté-là. Autant je peux reprocher ça sur d'autres choses, autant ici, disons que voilà, je ne le reproche pas vraiment.
Alan, une réaction ?
Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Eric par rapport au fait d'oublier l'œuvre originale, c'est très difficile à faire. Et il ne faut pas oublier que les fans de cinéma de genre sont un peu, par essence, des personnes élitistes.
Et très critique parfois.
Très critique aussi, et qui veille un peu sur certaines œuvres comme si c'était leur chasse gardée. Donc c'est très difficile à faire, de pouvoir faire abstraction de l'œuvre originale.
Il y a quand même dans ce remake, en quelque sorte, des plans à l'identique quasiment de l'anime.
Oui, tout à fait. Oui. Heureusement, on n'est pas dans un copier-coller pur et dur, comme La Belle et la Bête, par exemple. Mais oui, effectivement, ça, c'est un petit peu...
C'est un autre débat, La Belle et la Bête.
Oui, là, on aurait beaucoup à en dire, je pense.
Mais effectivement, il y a des passages obligés hein, qu'il faut reprendre souvent dans ces reboots, dans ces réactualisations, pour les fans notamment. Hein.
Il y a une actrice française aussi dans le film ?
Oui, Juliette Binoche.
Juliette Binoche,
tout à fait, oui.
Qui joue la scientifique.
Oui.
Oui, qui est bien, mais tous les personnages sont bien, voilà,
oui,
les rôles sont plutôt bien distribués avec des interprètes qui sont plutôt bons derrière. Mm-hmm. Et c'est vrai, clairement, on met en évidence toujours la plastique de Scarlett Johansson, mais bon, elle fait ce qu'elle doit faire. Je dirais, il y a même quelque chose qui est assez réussi et qu'elle a, je pense, tout à fait travaillé, c'est ce côté démarche légèrement robotique qu'elle instille à son personnage et qui est assez réussi, je dois dire, parce que au début ça surprend un peu, on se dit mais tiens, est-ce qu'elle a un problème, mais en fait on se rend compte que bon, c'est quelque chose qu'elle a travaillé. Et donc, on sent que tous les interprètes, malgré, je pense, aussi le côté complètement effets spéciaux à outrance, ont quand même essayé de tirer une certaine part de leur personnage et d'améliorer les choses. Donc, c'est pas mal. Allez, il ne faut pas toujours cracher sur le cinéma américain mainstream. On va essayer de ne pas le faire.
Par rapport à Scarlett Johansson, on oublie aussi qu'au-delà de sa plastique, elle a une voix sublime aussi.
Tout à fait.
Il y a un film dans lequel il n'y en était qu'une voix. Hein.
Oui. Le film de Spike Jonze.
Oui.
Ça donnait des frissons rien que de l'entendre. Oui, hein. Enfin, pour le souvenir que j'en ai, elle était assez extraordinaire. Oui. À propos d'entendre, j'ai revu le film de 1995, mais en DVD, sur grand écran, ça ne donnait pas bien. Parce que par rapport à ce que j'avais vu le matin en IMAX, il faut signaler que le film est ressorti en DVD remasterisé. Mmh. Quelqu'un me l'a prêté, j'en ai vu un quart d'heure, c'est assez bluffant. Le son et l'image ont vraiment été très très bien restaurés. Donc ça mérite vraiment de revoir après ou de le voir avant. Sur le coup de voir le DVD, j'étais très déçu, mais ayant vu ce qu'on en a fait en le ressortant, et je suppose à l'occasion de la sortie du film. Donc ça pour ceux qui voudraient se plonger là-dedans.
Ah oui, tout à fait. Invitons les auditeurs à voir les deux films, même de Mamoru Oshii, qui se complètent plutôt bien.
Même ceux qui ne connaissent pas l'univers, c'est une expérience intéressante.
Tout à fait, c'est très intéressant. Et à lire le manga aussi pour les fans de BD.
Puisque nous sommes dans le son, on va passer à notre pause musicale. Eric, vous avez proposé un morceau.
Mais oui, voilà, on parlait de la voix de Scarlett Johansson, mais donc elle l'a. Montrer son timbre de voix à l'occasion d'un album. Et donc, c'est un morceau qui s'appelle Relator, qui est extrait de cet album où elle chante.
On écoute cela.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night.
You can see that life's for us to talk about. You can leave when. Whoa.
but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, but still.
You don't think that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out. Well, you don't relate to me, no girl. You don't respect.
Nous allons enchaîner maintenant sur un deuxième film qui s'intitule Grave et je vais céder la parole à Samuel.
Oui, alors Grave de Julia Ducournau, hein, c'est un premier long métrage pour cette réalisatrice française. C'est une coproduction entre la Belgique et la France. Alors, c'est une réalisatrice très intéressante, puisque moi qui m'a tout de suite beaucoup attiré, parce qu'elle est fan du cinéma de David Cronenberg. Donc, je me suis dit, ah, là, ça va être certainement quelque chose de viscéral et d'intéressant, effectivement. Alors, pour l'histoire, parce que le film n'est pas très connu, hein, on n'en a pas parlé tellement que ça. Il a une petite réputation, mais ce n'est pas un gros film commercial, évidemment. C'est l'histoire d'une jeune végétarienne, hein, surdouée, très intelligente, qui va rejoindre le campus d'une école vétérinaire. Et dès son arrivée, elle tombe en plein bizutage, hein, un impressionnant bizutage assez virulent, lors duquel elle va devoir ingurgiter, goûter et manger de la viande. Alors le dégoût, évidemment, au début, et peu à peu, le dégoût va faire place à un certain goût, une certaine appétence pour la chair fraîche, qui se développera en une certaine forme de cannibalisme. Donc vous voyez, un sujet assez radical et une œuvre mutante, véritablement, j'ai trouvé, puisqu'on c'est un film qui explore comme ça les plaisirs de la chair, et évidemment l'adolescence aussi, hein. En parallèle, et c'est un film qui vraiment, pour pas faire de mauvais jeu de mots, dévore vraiment à plein dedans ces thématiques que sont l'amour et le cannibalisme. Donc on est dans une œuvre à la fois qui mêle plusieurs genres. On est dans la comédie, parce qu'il y a des moments franchement drôles, un peu noir, hein, l'humour noir, dans la romance aussi, et le drame, hein, et surtout le film d'horreur, un film d'horreur plutôt radical et viscéral, comme j'ai dit tantôt. Voilà, c'est un film qui met même réellement mal à l'aise à certains moments, et qui a vraiment un refus de l'édulcoration qui fait plaisir à voir. Il y a des séquences sanglantes, gore, ça va jusqu'au bout, mais des effets qui ne sont pas gratuits, qui sont assez ménagés justement, je trouve, au sein de l'histoire. C'est un film qui brise les règles, hein, les règles de la bienséance, sans aucun doute. Alors, c'est certes pas un film parfait, hein, c'est un premier long métrage, il a ses défauts qui font parfois aussi son charme, mais c'est vraiment un cinéma franc-tireur qui a de l'énergie à revendre et des effets bien dosés. Et je trouve que Julia Ducournau, avec ce film, se rapproche un petit peu du talent et de certains auteurs francophones, comme notre compatriote Fabrice Duwels, réalisateur de Calvaire, ou du côté français, Lucie Ladzia-Lilovic, réalisatrice d'Évolution, Innocence notamment, ou encore Marina Devane, à qui on doit des œuvres comme Dark Touch. Voilà, il y a un petit peu cet amour du cinéma de genre qui transpire et ce désir d'aller jusqu'au bout de thématiques et de faire du cinéma qui n'est absolument pas mainstream ici pour le coup. On est dans tout à fait autre chose. Et une actrice principale qui est absolument merveilleuse, Garance Marillier dans le rôle principal, qui avait déjà tourné dans les deux courts-métrages de Julia Ducournau et qui est ici vraiment électrisante. Elle livre une prestation entre innocence et animosité. Voilà, une jeune actrice et une jeune réalisatrice à suivre de très près.
Et en tout cas, quand des amoureux se disent « je te mangerai bien », c'est pris au pied de la lettre ici dans ce film. Alain,
tout à fait. Oui, tout à fait. Pour rebondir ce qu'a dit Sam, je pense même, en tout cas à mon sens, que Grave, c'est même au-delà du cinéma de genre. C'est un peu un film de zone grise. On en parle assez souvent avec Fausto Fazulo, donc le rédacteur-chef de MAD. C'est-à-dire que c'est un film qui partage certaines caractéristiques du film de genre, mais qui en même temps est bien au-delà de ça. Et je trouve que Julia Ducournau est très forte dans sa façon de mélanger intimisme et viscéralité, d'une certaine façon.
Eric ?
Mais oui, je rebondis toujours là-dessus. En fait, je pense que Julia Ducournau, elle brouille vraiment les pistes. C'est-à-dire que sur un sujet qui est vraiment intriguant, moi je me rappelle, j'avais lu le sujet bien avant évidemment que le film soit là, et en voyant ça, je me suis dit waouh, ça c'est un film que j'ai envie de voir parce que le sujet est vraiment intriguant. On se dit tiens. Quelqu'un qui est végétarien, voilà, qui subit un bizutage et qui doit manger de la viande. Et puis ça s'arrêtait là, hein, évidemment, le synopsis de base ne dévoilait pas le reste. Et je trouve qu'elle brouille vraiment les pistes parce qu'on démarre comme ça et on se dit, bon, oui, c'est une famille de vétérinaires, elle continue à faire vétérinaire, bon, ça a l'air très fort dans les rails. Et elle va déraper vers l'horreur, elle va déraper vers le fantastique, elle va déraper vers le social, parce qu'il y a aussi une critique, il y a clairement une critique du bizutage, hein. Elle rentre dedans, elle y va à fond, et elle montre que bon, on exige et on humilie les gens d'une certaine façon au moment du bizutage. Donc elle touche à tous les sujets. Et c'est assez marrant parce que on pourrait dire qu'en touchant à tous les sujets, elle va perdre le fil, mais ça c'est la qualité vraiment de Grave, on a à aucun moment une perte du fil conducteur de l'ensemble. Et jusqu'au bout, elle maintient son fil conducteur. Et ça, c'est magnifique parce que pour un premier film, combien de réalisateurs passent à côté, essayent de traiter 15 sujets qu'ils ont en tête sans jamais arriver à en traiter un seul. Eh bien, elle y parvient avec un grand talent. Je dois dire, on attend avec impatience la suite parce que je suis extrêmement curieux de voir ce qu'elle va nous donner en suivant. Surtout qu'il paraît qu'elle est sur un sujet de tueur en série, me semble.
Oui, une femme serial killer. Oui.
Femme en plus serial killer, ça va être très intéressant. Oui.
Et l'héroïne du film, elle a une sœur aussi et elle a comme compagnon de chambre, normalement pas une fille, mais un garçon dont elle n'a en principe rien à craindre.
Oui, voilà, il y a quelques surprises dans le film. Donc, oui, parce qu'il est a priori homosexuel, mais
c'est pas si clair que ça.
Voilà, c'est pas si clair. C'est ça qui est bien dans
les
ce film.
Les identités de genre posent question.
Voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
C'est pas du tout binaire,
c'est ambigu, c'est pas linéaire.
Et voilà, quelle belle toile, c'est passionnant. De fond aussi. Honnêtement, les baptêmes estudiantins et le bizutage, j'ai pas le souvenir que ça avait réellement servi de toile de fond dans un film de genre. En tout cas, ça me vient pas. Et c'est presque traité de manière documentaire. C'est ultra réaliste et je pense que ça peut donner une bonne idée de ce qui se passe durant des études de vétérinaire.
C'est tourné à Liège, d'ailleurs, sur le campus de Liège.
Et le campus, enfin Liège, les autorités avaient donné l'autorisation en se disant mais c'est un film mineur qui ne va pas avoir de publicité. Et très rapidement, il a eu une très grande notoriété. Et cette publicité a un peu désemparé les autorités académiques à Liège.
Et il a tellement une grande notoriété que l'affiche de la quinzaine du cinéma à Cannes cette année est en fait une photo de Julie Ducournau et Garance qui s'embrassent au moment où sans doute elles savent qu'elles ont le prix, notamment Fipreski. Donc c'est une très jolie photo qui va servir d'affiche pour la quinzaine à Cannes.
Belle info, je ne savais pas. Tiens.
Une réaction, Alain ou Samuel ?
Peut-être encore sur l'identité belge du film. Il y a quelques beaux talents belges dans ce film. Il y a notamment le Ruben Inpens, qui est le directeur photo des films de Felix van Groningen, donc le réalisateur de La Merditude des choses, notamment de Belgica plus récemment, et aussi l'assistant réalisateur Dimitri Linder qui avait travaillé sur le film de Bouli Lanners, Les Premiers et les Derniers, Bouli Lanners, qui fait une petite apparition aussi dans le film. Donc il y a une identité belge dans ce film qui est sympathique, je trouve.
Oui, la bande originale du film est fabuleuse.
Et la bande originale est très bonne.
On n'en a pas parlé encore, mais elle est très bien trouvée.
Oui, c'est le compositeur des films de Ben Whitley qui a bossé dessus sur la partie vraiment uniquement composition orchestrale et des titres préexistants donc qui ont été très bien choisis effectivement par Julia Ducournau qui a très bon
un morceau d'Orti sur une des meilleures scènes du film.
Oui, tout à fait.
Qui opère un peu un twist émotionnel en tout cas dans la construction du personnage de Garance Marillier.
Ouais, c'est vraiment une actrice qui a finalement utilisé tous ses talents, toutes les techniques pour arriver à ses fins, la musique, le son, l'image, son scénario, ses acteurs. C'est vraiment une très belle réussite, ce film. Réussite.
Ben Whitley, que vous citez, c'est pas encore des films de genre ou quoi, mais il me semble avoir un souvenir où je confonds avec un autre réalisateur.
Oui, c'est notamment Touriste, Kill List, ou plus récemment Free Fire, qui a été projeté ici au BIFF.
Et qui sortira... Qui ne sont pas piqués des verres comme film.
Oui, qui ne sont pas piqués des verres, effectivement, qui ont des atmosphères aussi, avec beaucoup d'humour noir.
Ouais, très décalé, très décalé. Étrange. Hein. Ouais. D'ailleurs, il a réalisé un film très expérimental qui s'appelle « Field in England », qui est vraiment génial en noir et blanc, et qui est, pour le coup, tout à fait en dehors des cases.
Une réaction encore, Eric ? Quelques minutes, il nous reste.
Mais rien de plus à ajouter, parce que je crois qu'on a, on a tout dit sur ce film. Et vraiment, on encourage tout le monde à aller le voir. Mais je pense que c'est déjà fait. Il y a énormément de monde qui vont le voir. Et tant mieux.
C'est bien, c'est une belle surprise, effectivement, au niveau des entrées. Ça marche plutôt pas mal. Et ça, c'est bien. Ça fait plaisir.
Je vous propose alors, on va découvrir votre choix musical. Ça nous donnera plus de temps pour parler du BIFF. Ça plaira à tout le monde. Alors,
Justement, c'est un morceau qu'on entend dans le film. C'est It's Getting Boring by the Sea des Blood Red Shoes. Alors, c'est un morceau qu'on entendait aussi dans le film Scott Pilgrim. Voilà, un morceau. Pour la petite histoire, Blood Red Shoes, j'avais quand même envie de signaler, c'est un groupe rock britannique, un duo, un homme et une femme, et qui tient son nom d'une anecdote, en fait, concernant l'actrice Ginger Rogers. Qui avait totalement dansé pour une comédie musicale, que ses belles chaussures blanches étaient devenues rouge sang. Donc, Blood Red Shoes, ça vient
rouge
de...
Sang, pas, rien avec ce fameux film, les chaussons rouges, il n'y a pas de lien.
Non, je ne pense pas. Pas.
Nous allons donc écouter ce morceau. Habituellement, à ce moment-ci de l'émission, nous parlons d'un troisième film et exceptionnellement parce que nous sommes quasiment à la fin du BIFF au moment où nous enregistrons cette émission Les 400 coups. Nous allons mettre le BIFF au cœur de notre émission. Nous allons aller à la fois à bâton rompu, faire part de souvenirs, de choses que l'on a vues bien ou ou qu'on en a moins bien dans ce film. Qui veut parler le premier ?
Alors. Par rapport aux souvenirs, je pense qu'on sera tous d'accord sur l'ambiance inimitable qui régnait au passage 44. Ah oui. On a tout de même l'impression que le Biff a un peu perdu de son aura depuis. Même si bon, faut un peu réussir à faire le deuil de ça, hein, d'une certaine façon. Mais on était confinés dans cet espace, puis il s'en dégageait véritablement quelque chose de très spécial. Et je me souviens d'ailleurs, au passage 44, il y avait un petit événement à chaque festival qu'on a perdu et qui n'ont plus du tout pu organiser les autres années. C'était le rafting, c'était génial.
Donc quelques mots,
oui. Durant une séance, il y avait le public qui était séparé en deux, on piochait une personne de chaque côté, et ces personnes devaient monter sur un canot pneumatique et se faire porter, faire un aller-retour du bout de la salle jusqu'au podium, et c'était le premier arrivé qui avait gagné, voilà.
Porté par le public.
Le rafting sur marée humaine, comme oui. On l'appelait.
Il y avait moins de place quand même pour le public à ce moment-là.
Oui, il y avait moins de place, mais il y avait aussi une condensation des films dans une même salle. Il y avait aussi des délocalisations, mais bon, le principal se passait au passage 44 dans une salle. Et donc, c'est vrai qu'on avait, on avait tous vu les mêmes films, on voyait tous, les films et donc cette ambiance-là était présente. Maintenant, moi, je ferai une petite nuance, c'est que c'est vrai que il y a eu un passage par Tour et Taxi qui là était vraiment dépersonnalisé totalement parce que c'était un grand hangar et que finalement on se retrouvait pas, on se croisait mais de très loin. Là aussi, il y avait deux salles d'ailleurs. Et je pense qu'avec le Beaux-Arts, on a retrouvé quelque chose d'un espace un peu plus confiné, un supplément d'âme qu'on n'avait pas. Maintenant, par contre, on a deux salles, donc c'est vrai que les choix sont très très difficiles parce qu'on voit des tas de films dans les deux et on se dit comment va-t-on aller voir l'autre, à quel moment va-t-on pouvoir le voir. Et donc il y a plein de dilemmes qui se posent à nous, mais voilà qu'on n'avait pas à l'époque effectivement du passage 44.
Il y a aussi une évolution au niveau de la programmation pure, parce qu'au passage 44, on était vraiment dans un pur festival de cinéma fantastique et d'épouvante, qui s'est de plus en plus, enfin, il a toujours été dédié aussi au thriller, mais maintenant, depuis quelques années, maintenant je ne sais plus exactement, on a vraiment une compétition au thriller, on a de plus en plus de thrillers qui sont programmés, de films de polar, de films policiers. Et c'est aussi symptomatique de l'actualité du cinéma de genre, c'est qu'il y a de moins en moins, en tout cas, les films d'horreur, d'épouvante, assument peut-être un peu moins leurs caractéristiques fantastiques. Il y a moins, on plonge moins dans l'épouvante, dans le fantastique, dans le cinéma de genre aujourd'hui. Et on brasse des thématiques qui sont plus sociales, comme Graf, par exemple, qui est un film de genre. C'est pas vraiment un film d'horreur, voilà, c'est des œuvres hybrides et donc le Biff a su se mettre à jour par rapport à ça en proposant des compétitions un peu parallèles et complémentaires, notamment via le thriller.
Est-ce que c'est pas une façon d'ouvrir un public plus large, de dépasser un peu les frontières d'un cercle fermé, replié, et d'avoir d'autres spectateurs qui viennent rejoindre le Biff ?
Certainement, et je pense que c'est le cas.
Peut-être, hein, mais c'est avant toute chose, je pense, le reflet de la production mondiale aussi. On produit de plus en plus de thrillers, en tout cas dans certaines contrées, comme en Corée du Sud par exemple, ou de polar aussi, et donc le Biff a forcément dû s'adapter à ça. Il y a moins de films d'horreur purs ou de films fantastiques qui sont produits à l'heure actuelle, et on ne peut que s'en désoler d'ailleurs.
Mais il y a eu une grande, si on regarde un peu, il y a eu une grande perte à un moment donné dans les années 90, hein, fin des années 90, début des années 2000. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une certaine manière, l'horreur est allée dans le mainstream, est allée en fait vers les blockbusters. On a retrouvé des passages vraiment gore dans des films type blockbuster tout à fait grand public. C'était d'ailleurs assez amusant parce que s'il y avait une récupération comme ça de cette partie-là, alors c'était plus du film de genre comme nous on en connaissait et des films d'horreur comme nous on en connaissait, et parce qu'évidemment tous les films tels le Giallo et autres sont partis à la trappe avec ce genre de film qui n'avait rien à faire de ce qu'il y avait autour, ils voulaient juste montrer la violence pour la violence, et donc on a perdu ça. Et en le passant dans le mainstream, bah, qu'est-ce qui se passe forcément? Quel est le but encore pour le cinéma un peu plus de genre de faire du film d'horreur? Bah, il est balayé par ce mainstream qui est là autour, mais malheureusement qui ne donne pas du tout, je précise bien. C'est pas parce que ça se retrouve dans les blockbusters que nous, fans de genre, on est content. On n'est pas content, évidemment.
Ce genre a perdu son âme en quelque sorte.
Mais je pense qu'il y a eu une volonté de retirer ce qui faisait le côté peut-être fausse frayeur, parce que le cinéma d'horreur, c'est pas le gore seulement. Donc il y avait la frayeur autour, et en fait ce côté fausse frayeur, on l'a mis en avant dans du cinéma blockbuster, et on s'est dit, ah, c'est formidable quand ça éclabousse partout. Mais bon, c'était pas ça le film d'horreur, quoi.
Avant de vous donner la parole, Alain, vous avez employé un mot que certains de nos auditeurs ne comprendront peut-être pas, le giallo. Ceux qui sont fans de cinéma de genre sauront d'où ça vient, mais peut-être en 30 secondes expliquer de quoi il s'agit, ou bien vous allez le faire, vous, Alain ?
Vas-y, Eric.
Le giallo, c'est du thriller, mais italien, à l'italienne. Ça vient principalement de Mario Bava, qui est un réalisateur italien, et qui a effectivement vraiment à lui seul créé un genre très particulier, tant pour la photo que pour le reste, c'est-à-dire que pour la mise en scène, l'ambiance, le scénario, qui était évidemment thriller vraiment à fond, mais thriller horrifique, hein, clairement. Voilà, donc c'est issu de ça.
Mais d'ailleurs, giallo, ça fait référence à la couverture jaune des romans de gare italiens. Ouais. Et pour en revenir, oui, par rapport à ce que Eric avait dit, c'est qu'il y a plusieurs vagues successives, en fait, dans le cinéma de genre. Eric a fait allusion à ça quand il parlait de cinéma un peu autoréflexif par rapport au genre et à toute cette vague de slasher qui est née dans le sillage de Scream, donc de Wes Craven. On a eu toute cette vague-là qui prenait vraiment le genre de haut, avec un côté ultra-référentiel et un peu ricaneur. Et en réaction à ça, par la suite, on a eu le torture porn qui, pour le coup, ramenait le genre aussi dans quelque chose de beaucoup plus organique, de plus viscéral et avec des effets gore plus prononcés.
Comme Saw ou d'autres films de ce genre.
Comme Saw, Hostel et tous les films qui sont nés dans cette mouvance, en fait.
Qui ne sont pas les films, à mon avis, de regardés par nos auditeurs, mais que l'on cite ici. Une réaction, Samuel ?
Bah oui, c'est tout à fait... le constat que vous faites est tout à fait correct. Je ne peux qu'aller dans le même sens. Et effectivement, bon, aujourd'hui, on a de moins en moins de vrais films d'horreur, mais le bif arrive encore de temps en temps à trouver une pépite.
Est-ce que dans ce 35e festival, vous avez trouvé des pépites ? Vous me demandez la parole, Alain.
Non, c'était juste pour clore ce constat par rapport aux genres, c'est qu'à l'heure actuelle, il a été véritablement ingéré par le cinéma mainstream. Et pour retrouver les sensations qu'on éprouvait à l'époque, là, il faut, pour le coup, aller chercher dans les marges, en fait. Et dans les films purement indépendants ou dans des cinématographies qu'on connaît pas très bien. Et je pense que c'est la démarche qu'il faut prendre la peine de faire.
Et malheureusement, on tombe parfois sur des films qui ont plein de bonnes intentions, qui transpirent l'amour du cinéma de genre, mais qui souffrent terriblement à cause de leur budget restreint et leurs moyens très limités. Comme je pense notamment à The Void, un film qu'on a vu ici au BIF, qui est plein de bonnes intentions, qui est vraiment dans un pur esprit des années 80 et qui s'embrouille un petit peu dans son scénario et voilà, et qui souffre de ses moyens un petit peu, et ça se voit à l'écran. Et voilà, on passe peut-être à côté à cause de ces financements de vrais chefs-d'œuvre.
Dans cette session-ci que
vous... À cause de ça. Oui, The Void, c'était un film ici projeté cette année au BIF. Il y en a certainement eu d'autres... dans le même genre, là, de mémoire, ça ne vient pas.
On voit aussi depuis quelques années, on a eu la montée à un moment donné du cinéma japonais, hein, le cinéma horrifique japonais qui a pris des proportions assez importantes, je dirais un peu avant les milieux des années 2000, et où il y avait énormément de films japonais. Maintenant, il y a pas mal de films coréens qui, eux, font une... je dirais, comme a dit d'ailleurs Samuel tout à l'heure, qui, eux, glorifient principalement le thriller. Ils sont très efficaces dans leur thriller. Il y avait notamment Missing You, qui était présenté au festival au BIF cette année, et qui est de nouveau un remarquable thriller, très très bien construit. Bon, ça reste des thrillers, et ils s'en font une sorte de... allez, de point d'honneur de faire des thrillers de ce type-là en Corée du Sud. Donc, on en a énormément. Il y a des moins bons, mais on en voit quand même beaucoup. Et ils sont assez doués.
Beaucoup trop.
Oui, beaucoup trop, beaucoup parce qu'évidemment, on retrouve toujours ces mêmes...
La formule, un petit peu.
Voilà. Ils ont compris la recette, en fait.
Voilà.
Moi, je trouve qu'il y a un essoufflement assez prégnant du thriller coréen à l'heure actuelle, parce qu'ils ont compris la recette.
Il y a beaucoup de films coréens pour le moment.
Tout à fait. Alors oui, évidemment, il y a toujours de pur génie dans cette vague-là, comme Park Chan-wook ou même Kim Ji-woon d'une certaine façon, pour ne citer qu'eux. Mais au-delà de ça, il y a de solides artisans. Mais c'est surtout au niveau des scénarios que ça pêche, parce que là, on retrouve un peu l'usage des mêmes ficelles et on tire toujours sur la corde sensible et on joue aussi sur le mélange tonal un peu tragicomique, donc entre le drame, la comédie, la violence assez brutale, la tension. Bon, c'est des choses qui reviennent quasiment systématiquement.
Toujours un peu avec des flics un peu borderline aussi et ses antagonistes. Voilà, on a une formule un peu qui se répète. Mais je trouvais plus récemment dans le cinéma coréen, il y a le Naunjing qui a livré une très, très bonne œuvre. Le film a plusieurs titres, The Wailing ou en
The
français
Stranger.
The Strangers, qui était un film très intéressant qui mêlait là plusieurs genres. On était un peu dans cette formule-là, mais un petit peu augmentée, je dirais, par une dimension un peu fantastique et d'épouvante qui était très intéressant. Donc The Strangers, si vous avez l'opportunité.
Le cinéma coréen qui bénéficie aussi, je crois, d'exceptions culturelles qui lui permettent d'avoir des quotas de films propres plus importants que dans d'autres pays. Je crois que ça doit jouer aussi. Le fait qu'on produise beaucoup, mais pas nécessairement tout de la même qualité.
Oui, il me semble. D'ailleurs, j'avais lu un article là-dessus et c'est Vincent Maraval de Wild Bunch qui en parlait. Visiblement, en Corée du Sud, l'argent des... rapporté par les productions télé et réinjecté dans le cinéma coréen. En tout cas, si je ne me trompe pas de mémoire, c'est comme ça.
Quelque chose que vous avez épinglé durant ces deux premiers tiers du BIF, Eric ?
On peut parler du très drôle, mais qu'on connaît plus ou moins tous pour son premier volet, le Hentai Kamen, qui est effectivement tout à fait particulier, tout à fait déjanté. C'est aussi ce que propose le BIF, hein, de temps en temps, c'est d'avoir des séances de ce type-là qui sont absolument déjantées. Bon, voilà. Et ça a marché, c'était hier soir, il y avait un monde fou et la salle était chauffée à blanc, clairement.
Hier soir, par rapport à l'enregistrement de l'émission, je vois des réactions, mais je ne sais pas si elles sont positives ou négatives.
Je ne l'ai pas vu.
Ah non, moi, ce n'est pas du tout mon truc, mais voilà.
Non, là, on est dans le... Qu'est-ce qu'on pourrait qualifier ? On est dans le plagiat du genre et vraiment un plagiat totalement déjanté, quoi. Qui fonctionne, bon, ça fonctionne un temps. C'est-à-dire que c'est le genre de film, on le voit au début, on est très content de voir les premières images et puis au bout d'une heure et demie, deux heures, on se dit bon, passons à autre chose.
Il nous reste une minute pour parler du BIF, un coup de déjà, un film que vous avez vraiment apprécié, vous
Cette année ?
Oui.
Une très bonne séance, c'est Safe Neighborhood. J'ai assez apprécié cette séance. Voilà, un film qui détriture un petit peu. C'est un peu un moment, j'ai raté l'avion, version un peu trash. Un home invasion, donc détourné, c'est-à-dire un home invasion, c'est comme son nom l'indique.
On vient envahir une maison,
des cambrioleurs, pour persécuter une famille ou des gens isolés. Ici, on reprend un peu tous ces codes-là, et c'est détourné avec de l'humour noir et un film pas parfait, mais qui a bien marché lors de la séance du BIF. Il y a eu un bon feeling durant cette séance, donc moi, ça a été une bonne séance ici, cette année.
Et vous, Alan ?
Moi, j'ai beaucoup apprécié Under the Shadow, donc une coproduction qatar-jordanienne, si je ne me trompe pas, et qui se sert du folklore des djinns, donc de tout ce folklore fantastique et un peu de démoniaque, on va dire ça comme ça, pour pointer... certaines inégalités sociales dans la société iranienne et la condition des femmes aussi. Je trouvais ça très intéressant.
Très bon film, oui.
Il y a d'ailleurs un plan génial dans le film, je vais faire court, où l'actrice principale sort dans la rue. Elle oublie de porter le voile, donc évidemment elle se fait rappeler à l'ordre, donc on la voile de force, on va dire ça comme ça, et quand elle rentre chez elle, elle a peur de son propre reflet. J'ai trouvé ce plan-là très intéressant.
Le temps, la gestion du temps est très cruelle. C'est une petite transition vers votre choix musical que vous allez nous présenter Alan.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un morceau de mon court-métrage Cruel et la nuit, composé par Clem Logan. Et c'est un morceau qui rythme la séquence clippée du film.
Nous voici de retour pour la dernière partie de l'émission, les 5 dernières minutes, occasion pour les invités de donner un coup de cœur ou un coup de gueule. Eric, je commence par vous.
Eh bien, c'est un coup de cœur, puisque l'autre fois j'avais fait un coup de cœur, vous rappelez, en forme de coup de gueule et un coup de gueule en forme de coup de cœur. Donc cette fois-ci, je fais un coup de cœur pour Lady Macbeth qui est sorti aujourd'hui. Et
qui est sorti le 12 avril.
Oui, voilà, le 12 avril. Oui, merci de me rappeler à l'ordre, Charles. Et donc, un coup de cœur pour une adaptation, en fait, d'un roman qui a été écrit en 1865 par un Russe, et qui parle d'une jeune fille qui est mariée, on va dire plus ou moins de force. Ça a été retranscrit, on va dire, dans l'Angleterre de la même époque. Une Angleterre assez rurale et assez profonde. On parle de cette jeune fille donc, qui se trouve mariée de force et qui va évidemment avoir un mari qui va lui dire qu'il ne l'aime pas du tout. Le beau-père ne l'aime pas non plus et qui va l'enfermer pratiquement dans la maison en lui disant surtout de ne pas sortir, alors que c'est une jeune femme qui est extrêmement libérée, qui a envie de vivre, envie de faire des choses. Et c'est un film vraiment remarquablement fait, très très surprenant, parce que dit comme ça, on s'attend à un film peut-être un peu ennuyeux, peut-être généraliste, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un film à voir, et l'actrice, l'interprète est formidable.
Lady Macbeth, donc. Samuel.
Alors moi, c'est plutôt un coup de gueule que j'ai intitulé « La Belle et la Bête » ou « Disney et le copier-coller est honté ». Parce que Disney, qui après Cendrillon et le Livre de la Jungle, continue de recycler son catalogue de classiques animés en les transposant en version live, en chair, en sang et en CGI, donc en effet numérique, en image numérique. Alors, je comprends pas cinématographiquement parlant l'intérêt de la chose, puisque dans le cas ici de La Belle et la Bête, on est vraiment face à un pur copier-coller à un bête, copier-coller du dessin animé. On a strictement la même histoire, les mêmes personnages. Les mêmes chansons. Hein. Ouais, on a ajouté quelques chansons. Donc si vous n'aimez pas les comédies musicales, on vous en remet une couche. Donc, et il n'y a aucune audace, aucune réactualisation de la chose. C'est de la nostalgie préfabriquée, vraiment, j'appelle ça une opération commerciale presque malhonnête qui veut juste nous faire repasser à la caisse. Voilà, ce type de démarche m'énerve. Et le pire, c'est que cela fonctionne, car gros succès au box-office, hein, pauvre de nous, donc cela va continuer probablement, puisque ça marche. Et pendant ce temps-là, il y a des films formidables qui passent un petit peu à la trappe ou qui sont relégués aux dernières séances dans certains cinémas. Donc, chers spectateurs, ne soyez pas
auditeurs. Auditeurs,
pardon.
C'est un réflexe de votre métier de chroniqueur cinéma.
Donc, essayez de ne pas être dupes. On vous arnaque en jouant sur vos Madeleines de Proust et votre film nostalgique. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire avoir.
Vous avez entendu sur télé MB, hein, je crois que vous avez parlé déjà
de ce film. Oui, j'en déjà un petit peu parlé.
Mais apparemment, vous n'avez pas été écouté ou regardé.
Ben non, ça continue de cartonner au box-office, malheureusement.
Et le mot de la fin, ce sera pour Alain Depré.
Ben désolé, on va encore terminer par un coup de gueule alors. Hein. Ben moi, c'est plus un coup de gueule contre les jeunes réalisateurs de courts-métrages ou de premiers longs-métrages qui se complaisent un peu d'une certaine façon dans leur clin d'œil référentiel, plutôt que d'essayer de créer un univers original. D'une certaine façon, on en a un peu marre qu'ils se réclament tous de Philip K. Dick, de Stephen King, d'Edgar Allan Poe, même si c'est plus rare, ou de Lovecraft, plutôt que de songer à créer des scénarios originaux, voilà, tout simplement. Alors oui, certes, le cinéma est un art du recyclage, mais un peu de prise de risque ne ferait pas de mal. Surtout venant de jeunes réalisateurs.
Parce que vous êtes vous-même vous, jeune réalisateur.
Ouais, voilà, donc j'ai pas envie de donner l'impression de cracher dans la soupe non plus, et je sais qu'il y en a qui vont mal le prendre, mais ça mange pas de pain de quand même d'essayer de créer quelque chose de singulier, d'original, et de prendre des risques, quitte à foncer dans le mur. Moi, j'ai une doxa par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai toujours tendance à soutenir des œuvres qui prennent beaucoup de risques et qui foncent dans le mur, que des films qui sont parfaitement maîtrisés, mais qui avancent sur un rythme ronronnant du début à la fin.
Et que l'on formate pour être sûr d'être pris en festival.
Oui, voilà, tout à fait.
Ce qui n'est pas le cas, votre film n'est pas très formaté et il n'est pas formaté pour RCF, mais n'empêche, on peut quand même dire quelques mots que vous allez bientôt quitter la Belgique parce que votre film va être présenté dans certains festivals. Vous pouvez en dire un mot, il vous reste 40 secondes.
Oui, oui, sans problème. En fait, demain soir, on sera en...
Enfin, demain soir, au moment où nous enregistrons, donc ça aurait été...
Oui, donc au moment où on enregistre, voilà, donc très peu de temps après cet enregistrement, on sera en compétition internationale en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, dans un festival qui s'appelle 2300 Plan Neuf et qui a visiblement une ambiance assez folle. Et le week-end suivant ce festival, en fait, on est en sélection internationale au Paraguay dans un festival qui s'appelle le FC San Lorenzo.
Alors, on vous souhaite énormément de succès. Je voudrais vous remercier tous les trois. Tout d'abord, Eric.
Merci, Charles. Merci à vous.
Merci à vous, Alan.
Merci beaucoup, Charles.
Et merci aussi à vous, Samuel.
Bien, merci.
Et donc, on se retrouve dans un mois.